Mais je vous propose de faire une courte lecture dans le livre des psaumes, au psaume, dans le psaume numéro 7. Le psaume 7. Saluons tous ceux et toutes celles qui nous visitent ce matin, qui sont venus combler les trous de ceux et celles qui visitent d'autres églises ce matin. Hein ? C'est le principe des vases communicants. Soyez les bienvenus. Psaume chapitre 7, verset 12. On va lire à partir du verset 11. Mon bouclier est auprès de Dieu, qui sauve ceux dont le cœur est droit. Dieu est un juste juge, un Dieu qui peut s'irriter chaque jour. Amen. Qui est Dieu ? Qui est Dieu ? Dieu est avant tout une personne. Dieu n'est pas une force, Dieu n'est pas une puissance qui est là-haut, qui se promène dans les lieux célestes, mais Dieu est une personne qui a une personnalité de ce fait, qui a des sentiments, qui a des attributs. Et ce qui marque, deux choses marquent au moins la personnalité de Dieu, c'est que premièrement, Dieu est saint. L'apôtre Jacques nous dira qu'il n'est pas tenté par le mal. La Bible nous décrit que Dieu est tout simplement saint, même certaines formules disent qu'il est trois fois saint, pour exprimer à quel point Dieu est saint. Et d'un autre côté, Dieu est amour. C'est bon de le savoir ça. Dieu est amour. Dieu est ce Dieu qui a tant aimé les hommes qu'il a donné son Fils unique. Dieu est ce Dieu qui a aimé sa création depuis le début jusqu'à la fin. Dieu est ce Dieu qui nous a aimés alors que nous étions dans le trou le plus profond, même sale, même laid. Eh bien, Dieu continuait à nous aimer et Dieu continue à nous aimer. Et ces deux attributs, ces deux caractéristiques de Dieu réunies font que Dieu est un Dieu juste. Parce que comment faire cohabiter d'un côté la sainteté de Dieu, d'un autre côté l'amour que Dieu a pour les hommes? Ces deux caractéristiques de la personnalité de Dieu se réunissent dans le fait que Dieu est et que Dieu reste un Dieu qui est profondément juste. Et c'est rassurant de savoir que notre Dieu est juste. La justice sur cette terre, bien qu'essayant de faire ce qu'elle peut, bien qu'essayant de cadrer les choses, est parfois quelque peu maladroite, quelquefois parfois injuste. Et vu d'un regard extérieur, on peut se demander si même parfois la justice porte encore bien son nom. Mais la Bible dit que Dieu est un juste juge. Et l'ordre des mots est important ici. Dieu est un juste juge. Juste et juge. Dieu jugera les hommes. L'auteur aux Hébreux nous dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. L'apôtre Paul écrira aux Romains au chapitre 2, au verset 16, « C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. » Et je crois de tout mon cœur que nous pouvons avoir confiance dans le Dieu qui nous jugera après notre mort. Vous savez que Dieu nous jugera après notre mort ? Vous savez que chaque homme, chaque femme, fois que son corps aura arrêté de battre, passera en jugement devant Dieu. Mais comme le dit ce psaume, Dieu est un juste juge. Et c'est sur ces deux mots que je me propose de m'arrêter avec vous ce matin et de réfléchir, même si ce n'est pas un thème qui est particulièrement vendeur, il n'empêche que c'est un thème qui est ô combien d'actualité et ô combien important. Alors, ouvrons bien nos cœurs au message que Dieu veut véhiculer. Dieu est un Dieu juste. Pourquoi ? Quelles sont les raisons qui font de lui un Dieu juste ? Premièrement, c'est qu'il ne fait pas d'exception de personne. Devant lui, tous les hommes sont égaux. Nous l'avons vu il y a 15 jours, il n'y a plus ni grec, ni juif, il n'y a plus ni homme libre. Bref, tous les hommes sont égaux et ont la même valeur et sont sauvés par le même moyen, c'est-à-dire par le salut par grâce. Qu'y a-t-il de plus discriminatoire que le principe du salut par les œuvres ? Je n'ai riche, donc je peux faire beaucoup d'œuvres, donc j'ai plus de probabilité d'être sauvé. Je n'ai avec une certaine influence dans la société, avec un certain nom, donc les probabilités pour que je fasse des œuvres sont plus nombreuses. Je suis en bonne santé, donc je peux parcourir les rues et puis aller faire de bonnes œuvres. Mais si je suis malade, comment est-ce que je fais, moi ? Je suis timide, comment est-ce que je fais ? Mais le moyen que Dieu a choisi pour sauver les hommes et pour les faire paraître justes devant lui est un moyen qui est ô combien facile, puisqu'il s'agit tout simplement de croire. Sur mon lit de mort, je peux croire. Malade, je peux croire. Pauvre, je peux croire. Riche, je peux croire. Homme, je peux croire. Femme, je peux croire. Même les enfants peuvent croire. Et de ce fait, le moyen d'accéder à Dieu, le moyen de paraître juste devant Dieu, est ô combien facile et est accessible à tous les hommes, est accessible à toutes les femmes, puisque ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, ce n'est pas parce que nous faisons, par ce que nous faisons que nous sommes sauvés, mais c'est par la foi en Jésus-Christ. C'est tout simplement en croyant que Dieu a envoyé son Fils unique afin que nous ne périssions pas, mais nous ayons la vie éternelle, que nous sommes sauvés. Accessible à tout le monde. À tout le monde. Et parce que nous croyons, eh bien Dieu produit une œuvre en nous. Nous le verrons tout à l'heure si nous avons le temps. Et c'est là que nous nous mettons à pratiquer les œuvres. Rien de plus simple, croire. Pas besoin de courir à droite, pas besoin de courir à gauche. C'est le principe. Et une fois que nous avons cru, eh bien Dieu fait son œuvre en nous. Crois que Dieu est capable de te changer. Crois que Jésus est capable de te changer. Crois que Jésus est capable de renverser toutes tes peurs, est capable de renverser toutes tes craintes, est capable de briser tous tes liens. Ce n'est pas toi qui le feras, mais c'est Jésus qui se servira de ta volonté afin d'accomplir sa grâce, afin d'accomplir son plan dans ta vie. Dieu est juste parce qu'il ne fait exception de personne et que le moyen d'être sauvé, eh bien, est accessible à chaque homme, à chaque femme, quel qu'il soit. Deuxième point qui fait que Dieu est un Dieu juste, c'est qu'il est omniscient. On connaît de manière très imparfaite. Et qu'est-ce qui fait la valeur d'un jugement ? C'est que tous les indices, tous les points sont pris en ligne de compte. Or, dans nos vies, il y a bien des zones qui sont cachées. Il y a bien des zones qui sont obscures, que les hommes ne connaissent pas et que parfois même nous-mêmes nous ne connaissons pas. Est-ce que ça ne vous est jamais arrivé de dire « Mais pourquoi est-ce que j'ai agi comme ça ?» On ne se comprend pas. Un petit peu comme l'apôtre Paul qui dira « Mais c'est pas possible. Hein. Je suis incapable de faire le bien que je voudrais faire et je fais le mal que je ne voudrais pas faire. » Et nous, devant nous, il y a le fait. Mais Dieu voit derrière le fait. Dieu voit derrière l'acte. Il voit à notre cœur. Et parfois, il donnera des circonstances atténuantes. Parfois, il donnera des circonstances aggravantes. Mais parce qu'il connaît toutes choses et qu'il a tout sous ses yeux, Dieu est un juste juge et il peut donner le bon jugement tout simplement parce qu'il connaît tout. Il voit tout. Il sait tout. Et de ce fait, nous pouvons avoir confiance en lui. Il jugera ce qui est visible, mais il jugera également le pourquoi de nos actes, le mobile de nos cœurs. Et ça, c'est ô combien important à ses yeux. Et puis, il jugera ce qui est invisible, ce que personne n'a vu. Il jugera les pensées de nos cœurs, celles qui se sont incrustées en nous. Il jugera ce que nous avons fait dans notre chambre, alors que notre femme même ne nous voyait pas. Il jugera selon, eh bien, au-delà de nos apparences. On est fort pour porter des masques. Et Dieu voit au-delà de nos masques. Il voit derrière. Et là, j'aime souvent le nuancer, cet aspect-là. Parce qu'il voit ce qui est sale derrière nos masques. Il voit également ce qu'on n'ose pas dire, parce que ça nous fait souffrir. Mais il voit également ce qui est bien, et que les hommes ne voient pas, et que les hommes n'ont pas reconnu. Et ça aussi, ça sera porté à notre dossier céleste. Que le nom du Seigneur soit béni. Dieu est un juste juge, parce qu'il ne fait exception de personne, parce qu'il est omniscient, et parce qu'il est fidèle à ses ordonnances. Sa loi ne change pas. Matthieu, chapitre 5, verset 18, « Je vous dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota et un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. » Le ciel et la terre peuvent passer, mais mes paroles ne passeront pas, dira Jésus. Et les règles ne changeront pas. Selon que vous soyez jugé en Tunisie ou dans d'autres pays, ou en France, ou en Allemagne, les lois changent. La règle change. Selon que vous soyez jugé au Moyen-Âge ou de nos jours, pour le même crime, entre guillemets, la sentence ne serait pas la même. Parce que la loi change, parce que les coutumes changent, parce que la mentalité de la société change. Mais la Bible dit que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et que les critères de son jugement ne passeront pas, ne changeront pas. Et de ce fait, on sait sur quoi on sera jugé. On sait ce qui pourra nous être reproché. Notre conscience est nourrie de tous ces éléments-là. Je sais ce qui est bien. Je sais ce qui est mal. Je sais lorsque je pratique le bien. Je sais lorsque je pratique le mal. J'en ai connaissance. Et dans mon cœur, eh bien, il y a ce tiraillement lorsque je m'attache au péché. Et il y a la joie lorsque je fais la volonté de mon Dieu. Je connais les choses. Je sais les choses. Et elles ne bougeront pas. Elles ne varieront pas. Ce qui était mal aux yeux de Dieu hier demeurera mal aux yeux de Dieu demain. Et ce qui était bien, ce sera la même chose. Dieu est juste parce qu'il ne change pas. L'apôtre Jacques nous dit qu'il n'y a aucune ombre de variation en lui. Et parce que le juge ne change pas, eh bien les commandements du juge ne changent pas et ne varient pas non plus. Quatrième point, Dieu est un juste juge parce qu'il est patient. Il a conscience du fait que nous sommes profondément limités dans notre capacité à gérer la chair qui nous anime. C'est vrai, non ? Êtes-vous parfait ? Marie, regardez vos femmes. Elles sont parfaites ? Et puis vice-versa. Je vais vous dire un secret, mais il ne faudra pas le répéter à mes collègues. Je ne suis pas parfait non plus. Il ne faudra pas leur dire. Hein ? D'accord ? Et nous avons tous en nous ce besoin d'avancer dans la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Nous avons tous besoin d'être transformés à l'image de Jésus. Nous avons tous besoin d'avancer. Nous avons tous besoin parfois de faire le ménage dans nos vies, de laver certaines choses. Mais, comme je le dis de temps en temps, c'est plus facile pour Jésus de multiplier les pains et les poissons qui sont une matière inerte que de changer le cœur d'un homme qui est une matière vivante. Et travailler en nous, c'est le travail d'une vie. Et si Dieu nous jugeait uniquement sur ce que nous sommes aujourd'hui, nous n'aurions pas le temps de construire énormément. Nous serions sauvés, certes, comme au travers du feu, pour nous qui avons cru, mais nous n'aurions pas construit énormément de choses. Peut-être que si Dieu te jugeait aujourd'hui, ce serait la condamnation éternelle. Parce que finalement, tu es encore dans une optique d'attentisme. Tu vois, tu observes, tu regardes un petit peu comment ça se passe, mais bref. Mais Dieu est patient. L'apôtre Pierre dira que le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Si Jésus tarde à revenir, c'est pour que tous, et là le mot tous est important, parviennent à la repentance. Tous parviennent à la repentance. Dieu ne prendra pas plaisir à juger et à condamner. Mais il le fera. Parce que dans la justice se rassemblent sainteté et amour. Et c'est là que les deux cohabitent et que les deux se retrouvent. Quatrième point. Dieu est juste parce qu'il nous jugera selon notre connaissance. Il y a ce texte de l'évangile de Matthieu au chapitre 11 au verset 23-24. « Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel ? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi, je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. » Deux villes. Une qui était totalement inepte, Sodome, qui a été détruite. Nous le voyons dans le livre de la Genèse. De l'autre, Capernaum, une ville où Jésus va exercer une bonne partie de son ministère. Certains qualifient Capernaum comme étant le quartier général de Jésus. Et là, que dira Jésus ? Il dira que Capernaum sera abaissé. Et que si les miracles qui avaient été faits en Sodome, en Capernaum avaient été faits à Sodome, eh bien les choses auraient été différentes pour cette ville. Jugement différent selon la connaissance que les deux villes ont eue. Quel enseignement, quel témoignage a eu Sodome ? Celui de Lot, le neveu d'Abraham. Quel enseignement a eu Capernaum ? Jésus-Christ, le Fils de Dieu, en personne. Et là, on s'aperçoit que Jésus porte un regard différent sur ces deux villes et explique que le jugement sera différent de par la connaissance que ces deux villes ont eue. Et ce qui génère une responsabilité, c'est la connaissance que nous avons. J'ai la connaissance d'un fait. Je serai jugé sur la manière dont je gère ce fait. J'ai la connaissance que Jésus est le Fils de Dieu. Je serai jugé sur la manière dont je reçois la chose, dont je reçois cette nouvelle. Mais nous qui sommes baignés dans les Écritures, qui avons la vérité, qui savons de manière pertinente que Jésus est le chemin, la vérité, la vie, nous avons de ce fait une grande responsabilité. Et je crois que, quelque part, le Seigneur, eh bien, nous le dira dans le ciel. Et, ou plutôt, j'espère qu'il ne nous le dira pas. Si tu avais été éduqué dans la même famille, ou si un autre avait été éduqué dans la même famille que toi, il aurait peut-être construit plus que toi. Il aurait peut-être bâti plus que toi. On sait que les serviteurs de Dieu, dont je fais partie, seront jugés plus sévèrement que les autres. Parce qu'il leur a été, j'aime pas ce terme, mais plus donné. Essayons de réfléchir. Essayons de réfléchir un petit peu. Là, je vous demande un exercice compliqué et pas agréable. Vous savez que je peux l'être de temps en temps désagréable. Mais vous m'aimez bien quand même. C'est vrai ? Ah, c'est le plaisir de l'entendre. Si quelqu'un d'autre était dans votre vie, qu'aurait-il fait de Jésus ? Si quelqu'un d'autre avait la même connaissance, les mêmes privilèges, qu'aurait-il fait de Jésus ? Et quelque part, c'est là-dessus, c'est l'un des critères dont Dieu se servira au jour de notre jugement. Nous sommes responsables de ce que nous connaissons et nous sommes responsables de ce que nous avons. Que le Seigneur nous aide à bien peser les choses. Vous savez, je ne vais pas tomber dans la moralisation. Et si les chrétiens d'Inde ou des pays persécutés avaient la capacité de vivre en pleine liberté, que se passerait-il ? On n'en sait rien, donc ce n'est pas la peine de spéculer. Mais que se passerait-il ? Que le Seigneur nous fasse réfléchir. Et j'aimerais vraiment déposer cette pensée de manière précise. Si quelqu'un était dans ma vie, est-ce qu'il ferait mieux que moi avec Jésus ? Est-ce qu'il construirait d'une manière différente avec Jésus ? Est-ce que finalement, je n'ai pas laissé passer quelque chose ? Je n'ai pas laissé passer des choses ? Dieu est un Dieu juste parce qu'il nous jugera selon notre connaissance. Sixièmement, ou cinquièmement, je n'ai pas mes lunettes. Ça va, vous suivez ? C'est que le premier point, ça, hein ? Je ne dis rien. Hein ? Cinquièmement, il a donné à tous une possibilité de le connaître. Vous me direz, ah bon ? Mais ceux qui sont perdus dans la jungle, etc., qui n'ont jamais... Ils connaissent Dieu ? La Bible nous dit, Ecclésiaste chapitre 3, verset 11, qu'il a mis dans le cœur de chaque homme la pensée de l'éternité. L'apôtre Paul nous dit, écrit aux Romains que les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Donc au moins deux choses, et on pourrait parler de la conscience, on pourrait parler de toutes sortes de choses, mais qui montrent que dans le cœur de chaque homme, il y a la pensée de Dieu. Que dans le cœur de chaque femme, il y a la pensée de Dieu. Et cette pensée se traduit d'une manière très simple. Regardez aujourd'hui la course qu'il peut y avoir après une certaine spiritualité, qu'on l'appelle occultisme, qu'on l'appelle bouddhisme, qu'on l'appelle islamisme, qu'on l'appelle catholicisme, qu'on l'appelle de toutes les manières que l'on veut. Mais quelque part, l'homme est à la quête de est en quête de quelque chose d'en haut. L'homme est en quête de spiritualité, l'homme est en quête d'une réponse à sa vie, l'homme est en quête d'une recherche de l'au-delà, qui l'emmène bien souvent dans des impasses, qui l'emmène bien souvent entre les mains d'hommes et de femmes qui ne leur font pas que du bien. Mais l'un dans l'autre, il y a dans le cœur de l'homme cette volonté farouche de trouver quelque chose qui corresponde au vide qu'il a dans son cœur. Et de ce fait, Dieu a donné la possibilité à tous les hommes, à un moment ou à un autre, eh bien, de croire en lui, de savoir qu'il est le chemin, que Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Et de se lancer dans cette quête qui, et la Bible nous dit que lorsqu'un homme, lorsqu'une femme s'approche de Dieu, eh bien Dieu s'approche de lui. Dieu s'approche de lui. Je me souviens de cet homme qui, un jour, alors qu'il était au bord du suicide, il avait le couteau qui était posé sur ses avant-bras. Il avait commencé à se lacérer. Et là, tout seul au milieu de ce parc, en pleine nuit, tout d'un coup, cette pensée a jailli dans son cœur. Cette pensée de l'éternité qu'il avait enfouie a jailli dans son cœur. Et il s'est dit, il a crié à Dieu. D'une manière tangible, il a dit, « Si tu existes, ô Dieu, sauve-moi !» Et instantanément, dans son cœur, il y a eu une paix, il y a eu une sérénité qui est venue. Il y a eu une tranquillité qui est venue. Et cet homme s'est converti là, tout seul, sans avoir lu un passage de la Bible, sans avoir reçu un seul mot de l'Évangile. Mais simplement, sa démarche a été de faire rejaillir cette pensée de Dieu qui était ancrée en lui. Et il s'est approché de Dieu, et Dieu s'est approché de lui. Vous savez, on peut être chrétien, et puis on peut avoir enfoui bien loin la pensée de Dieu. Fais-la rejaillir dans ton cœur. Crie à Dieu. Invoque-le. Demande-lui de se manifester. Demande-lui une preuve, quelque chose de tangible, quelque chose qui fasse bouger ton cœur, qui redonne la vie à ta foi, qui redonne la vie à ce que tu es. Approche-toi à nouveau de lui. Et tu verras. Bien, il y aura ce petit clin d'œil d'en haut qui sera là, que tu verras que, et Dieu, eh bien, te montrera, et je suis encore là. Et la pensée que tu as dans ton cœur, eh bien, elle est bien authentique, elle est bien véritable. Conclusion de ce premier point. Pouvons avoir confiance en celui qui nous jugera. Il est juste. Il est juste. On ne sera pas jugé selon notre tête, on ne sera pas jugé selon notre portefeuille, on ne sera pas jugé selon ce que l'on a été, purement et simplement, mais on sera jugé sur le critère de la foi, parce que nous avons cru, et parce que nous avons porté les fruits qui sont inhérents à la foi. Eh bien, alors nous pouvons avoir cette conviction. Eh bien, que celui qui passera nos vies au crible, eh bien, le fera bien et le fera de manière juste. Alors, n'en ayons pas peur. Ne vivons pas la mort, le passage dans l'au-delà, avec crainte, avec peur. Mais sachons que celui qui nous accueille derrière est un Dieu qui nous rendra selon ce que l'on a fait. Et si, même si on a mal fait avec une bonne conscience, eh bien, lui le sait. Même si l'on s'est trompé avec une bonne conscience, lui le sait. Il ne jugera pas simplement les actes, mais il ira plus loin que les actes. Et en revanche, si on s'est trompé de manière volontaire, si on s'est égaré de manière volontaire, si on a fait le mal consciemment, il le sait également. Et lui est capable de faire la part des choses. Deuxièmement, il est juge. Il est juste, mais il est juge. Et c'est parce qu'il est juste qu'il est juge. Je vais laisser traîner mes notes hier sur l'ordinateur, et puis Myriam me dit, quand elle avait le titre de la prédication, elle m'a dit, elle est bizarre cette expression-là, juste juge. T'es sûr que tu t'es pas trompé? Puis ça m'a fait réfléchir, je me dis non, je ne me suis pas trompé. Bon, c'est le texte biblique. Puis ensuite, il y a un lien entre les deux mots. C'est parce que d'abord Dieu est juste qu'il devient juge. Ça, le fait qu'il juge les hommes vient du fait, bien qu'il soit juste, et que les méchants doivent être rétribués selon leurs actes, et que les bons doivent être rétribués selon leurs actes. Le jugement de Dieu prend naissance dans sa justice. C'est bon, vous me suivez? Bon, d'accord. Alors, je peux continuer trois quarts d'heure encore. C'est bon. Oula, faites attention, ça pourrait arriver. Alors, nous passerons tous en jugement. Comment ça va se passer? Oh! Premièrement, ceux qui ont cru passeront en jugement. On passera devant ce que la Bible et l'apôtre Paul notamment appelle le tribunal de Christ. Moi, je préfère utiliser l'expression qu'il utilise également, le tribunal des récompenses. C'est une autre tournure, parce que ce ne sera pas un tribunal de jugement, mais ce sera un tribunal où, eh bien, notre Dieu récompensera ceux que l'on aura construits de manière sérieuse et de manière authentique. Et il ne nous condamnera pas sur ce qui aura été brûlé, mais il nous condamnera sur ce qui... il nous jugera sur ce que... il restera. Je trouve que la vision est quand même bien plus réconfortante pour notre foi. Et donc, nous les chrétiens, ceux qui avons cru, ceux qui ont construit nos vies sur le socle de l'évangile, sur le socle de la mort de Jésus, eh bien, là, un jour, lorsque la trompette sonnera, et que les morts en Christ ressusciteront premièrement, et que nous les vivants, comme le dira l'apôtre Paul, eh bien, serons ressuscités, eh bien, nous passerons en jugement. Passeront en jugement et nos vies passeront comme au travers du feu, puis il restera ce qui a été construit avec de l'or et avec de l'argent, avec des pierres précieuses. En revanche, tout ce qui aura été construit avec du chaume, de la paille, eh bien ne restera pas. Alors je vous ai déjà enseigné ça, mais qu'est-ce que c'est que l'or et qu'est-ce que c'est que les pierres précieuses? C'est tout ce qui a été fait, eh bien, avec des mobiles purs. Tout ce qui a été fait pour le Seigneur et uniquement pour lui. Tout ce qui a été offert, tout ce qui a été donné. Tout ce qui a été fait pour son œuvre, tout ce qui a été fait pour lui. Et le chaume, la paille, et ce sont les apparences, tout ce qui a été fait uniquement pour nous. Hein, on peut parfois se servir du nom de Jésus pour accomplir eh bien, une passion personnelle, pour accomplir un besoin personnel. Et tout ça devant Jésus, ça ne passera pas et ça ne restera pas. Et donc, nous les chrétiens, on passera. Alors, la question que l'on a à se poser, c'est comment construisons-nous ? Est-ce que nous construisons déjà, première chose? Ou alors est-ce que nous sommes de cette race de chrétiens qui existe dans d'autres églises, en Normandie, ou alors dans le sud de la France, ou dans des pays très éloignés, qui disent « Je suis sauvé, ça me suffit !» Voilà, je suis sauvé, c'est bien, gloire à Dieu, j'ai cru que Jésus est mort pour mes péchés, et maintenant, je suis bien. Je vis ma petite vie de foi, je viens le dimanche matin, je m'assois sur ma chaise, je chante. Éventuellement je loue, je prends la Sainte-Seine et puis je m'en vais. Et puis je reprends mon boulot, tranquillement, et j'attends le dimanche qui vient. Et ainsi, voilà, le fondement est posé. La question, la petite parenthèse que j'ouvre, c'est est-ce qu'il perdurera? Mais, bon, voilà. Qu'est-ce que l'on a construit? Qu'est-ce que l'on bâtit? Qu'est-ce que l'on fait finalement? Est-ce qu'on laisse le Seigneur nous travailler, nous transformer et nous permettre de ressembler à Jésus, nous permettre d'avoir les sentiments qui étaient en Jésus? Ce n'est qu'un début la foi, ce n'est qu'un début. Nous ne sommes que des bébés dans la foi. Nous avons vocation à grandir. Donc, nous passerons tous en jugement, les chrétiens, on vient de le voir de manière très sommaire. Et puis ceux qui n'ont pas cru passeront également en jugement plus tard, hein, après la bataille d'Armageddon. Et passeront devant ce grand trône-là, et là, toute bouche sera fermée, et le jugement tombera. Vous n'avez pas cru en moi. Et là, ils rejoindront le diable et l'antichrist dans l'enfer qui aura été ouvert. C'est pas agréable ce que je prêche. C'est la vérité. Et c'est la vérité. Une question, qu'est-ce qui se passe entre? C'est-à-dire, les chrétiens qui sont morts là, ils sont où? Est-ce qu'ils sont ressuscités corporellement? Non, pas encore. Ils sont stockés. Bon, le terme est pas approprié, mais il est imagé. Hein? Les méchants, ceux qui n'ont pas cru, ceux qui n'ont pas cru en Dieu, sont dans un lieu qui s'appelle le Sheol en hébreu ou l'Hadès en grec. C'est un lieu de tourment. C'est un lieu où il y a des grincements de dents. C'est un lieu où il y a des regrets. C'est un lieu où il y a des souffrances. Et ils attendent leur résurrection au jour du jugement dernier. Ça va ? Et ceux qui ont cru, ben, ils sont avec le brigand, comme l'a dit Jésus, hein, tu seras aujourd'hui avec moi dans le paradis. Et là, ils sont dans la présence de Dieu. Ces deux lieux ne sont pas des lieux géographiques, à proprement parler. Mais ils imagent une situation, la situation des âmes, qui attendent de passer en jugement pour ceux qui auront cru devant le tribunal de Christ et pour ceux qui n'auront pas cru au jugement dernier. Ça va? Alors, en conclusion, vous y croyez? Quels sont les critères? Je le rappelle, la foi dans son Fils, premièrement. C'est le critère de base. Et deuxièmement, c'est ce qui découle de notre foi. C'est-à-dire les fruits de la repentance. Notre foi génère des changements, génère une transformation qui est opérée par l'autorisation que l'on donne à Jésus de le faire dans notre vie. Ça, c'est le postulat. Maintenant, une question. Quelle est notre attitude face à cela? voilà, j'ai été désagréable pendant 35 minutes. C'est un but, c'est pas celui de vous faire fuir. Mais c'est celui de porter à l'interrogation. Quelle est notre attitude à cela? Quatre questions se posent. Premièrement, avons-nous cru et nous sommes-nous engagés avec Jésus? Finalement, avons-nous pris la décision de passer devant le juge en étant couvert par notre avocat, protégé par notre avocat, qui est le Seigneur Jésus? Deuxièmement, continuons-nous à marcher dans la lumière? On a pu suivre le Seigneur, s'engager avec lui, et puis finalement avoir bifurqué dans des endroits plutôt mal famés, et être tombé entre les mains de brigands, et notre foi est en danger. Et là, devant Dieu, le juste juge, nous le fera connaître. Troisième chose, et nous l'avons évoqué de manière un peu plus détaillée, comment avons-nous construit? Et comment construisons-nous notre foi? Est-ce que c'est une de nos préoccupations? Ou bien est-ce que c'est quelque chose de complètement accessoire? Quatrième question, sur laquelle j'aimerais insister un petit peu plus lourdement. Et là, vous vous dites, oups, ça va être long. Non. Nous passerons devant le juste juge et nous serons sauvés. Mais d'autres à côté de nous, non. Un homme a écrit la chose suivante un jour. Ne croyez pas à cette doctrine, la doctrine des peines éternelles, d'une manière froide, intellectuelle, comme donnant lieu à une argumentation. Si c'est le cas, et si vous essayez de l'enseigner aux hommes, vous les en éloignerez. Mais faites-en le sujet de votre étude, sous ses aspects pratiques et personnels, jusqu'à ce que votre cœur, oppressé par le péril épouvantable que courent les inconvertis, vous pousse à dépenser votre dernier sou, s'il le faut, et jusqu'à vos dernières forces, pour pouvoir sauver ces âmes en danger, sur le bord de l'enfer, certain et terrible, où les attend l'agonie consciente. C'est-à-dire que ce que je viens d'enseigner, ça doit nous pousser à nous dire, Seigneur, que ta lumière brille. S'il te plaît, Seigneur, que ta lumière brille. Parce que moi, je suis sauvé. Moi, je sais où je vais. Mais tant d'hommes et tant de femmes ne le savent pas. Tant d'hommes et tant de femmes ont enfoui la pensée de l'éternité dans leur cœur. Tant d'hommes et tant de femmes. Alors je veux me tenir sur mes genoux et je veux prier, je veux intercéder. Alors je veux commencer à ouvrir ma bouche et annoncer qu'il y a une solution pour le drogué, annoncer qu'il y a une solution pour le SDF, annoncer qu'il y a une solution pour les hommes et les femmes qui se perdent. Je veux pas que simplement ce soit quelque chose qui soit intellectuel, mais je veux que ce soit quelque chose qui soit profondément vécu. Quelque chose qui me pousse à m'investir, quelque chose qui me pousse à m'offrir. Un sentiment fort qui me fasse dire, oui, je sais pourquoi j'ai été sauvé. C'est pour permettre que d'autres le soient également. C'est pour que je sois un témoin, c'est pour que je sois un ouvrier. Et peu importe finalement le retour sur investissement. Moi, je veux être en paix avec mon Dieu. Et je veux faire ce que je dois faire. Moi, je suis sauvé. Et après, que se passera-t-il lorsque ma génération passera devant le juste juge? Que se passera-t-il? Que le Seigneur puisse se servir de nous. Parce que s'il ne se sert pas de nous, il se servira d'autres. Et lorsqu'on passera devant le juste juge, quid? Que le Seigneur nous aide. Amen.